écoutez
la radio qui fait.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Votre revue de presse hebdomadaire, 15 hommadaires.
15 hommadaires, ouais.
De la primitive.
Bonsoir à tous, à toutes.
Salut Julien, t'étais où?
Alors, qu'est-ce qu'on va se lire ce soir? Moi, je vais vous lire un petit communiqué des parents de Serge qui avait été blessé grièvement à Sainte-Soline.
Moi, j'ai un petit texte sur, qui est issu du dernier CQFD. On a le journal papier, vous l'entendez, et ça s'appelle « Les chiens robots sont nos amis ». C'est sur une entreprise américaine qui fabrique des chiens militaires.
Et moi, je vais parler un peu de Mayotte, principalement.
Et ensuite, moi je vous lirai peut-être aussi, si on a le temps, on verra un texte du numéro précédent de CQFD. Sur encore une fois des robots, mais ce coup-ci qui font le ménage et qui font pas bon ménage.
Qui aspirent tout.
Qui aspirent tout, voilà.
On se commence par quoi ? Un petit bout de musique ou on attaque direct ?
Ah bah là tu nous mets devant un... Bah, je voulais le communiqué des parents de Serge.
Allez.
Et puis peut-être qu'après on se fera un agenda aussi à un moment.
Ok.
Alors, c'est parti. Communiqué des parents de Serge... du mercredi 26 avril 2023. C'est publié par l'OCL. Un mois après le tir de grenade qui a gravement blessé à la tête notre fils Serge, le 25 mars 2023, lors de la manifestation contre les méga-bassines de Sainte-Soline, l'incertitude subsiste concernant son avenir. Selon les critères médicaux purement cliniques, Serge est sorti du coma. Cela signifie qu'il entrouvre les yeux, mais nullement qu'il est réveillé. Les soins qui lui ont été dispensés depuis son arrivée à l'hôpital ont visé à juguler diverses lésions et infections. Celles-ci ont pour origine le tir de grenade dont il a été victime, mais aussi les conditions dans lesquelles les premiers secours lui ont été dispensés sur les lieux mêmes de la manifestation. Les forces de l'ordre interdisant aux pompiers et aux ambulances d'accéder aux personnes blessées pour les prendre en charge. Ces soins ont contribué à ce que l'état de Serge, qui reste d'une extrême fragilité, ne se dégrade pas davantage. Cela permet d'espérer son retour à la conscience, mais ce n'est pas encore le cas. À ce jour, il est impossible d'affirmer que Serge va recouvrer ses esprits et l'usage de son corps, ses membres et ses sens, sa capacité à respirer et à parler, ou d'évaluer les séquelles de sa blessure. Une rechute infectieuse demeure à craindre. Son pronostic vital reste donc engagé. C'est pourquoi nous dénonçons toute utilisation qui pourrait être faite de sa sortie du coma. Serge est malheureusement fort loin d'être tiré d'affaire. Prétendre le contraire serait un pur mensonge. Voilà, c'est signé les parents de Serge du 26 avril. Et voilà. Et bah, peut-être on se met un peu de musique.
Dis, Janine, qu'est-ce que tu danses ? C'est drôlement chouette, ça. Comment ça s'appelle ?
C'est le mash potato. En Amérique, tous les jeunes le dansent.
T'as ressemblé un peu au Charleston ?
Oui, un peu au slop aussi.
Tu veux pas nous l'apprendre ?
Si, bien sûr. Allez, tout le monde autour de moi. Apprends-moi la main, toi, mon petit béguin. Oh oui, viens avec moi. Apprendre, ce ne vaut pas. Le slop de Charleston, et sur ce joyeux refrain, tu danseras comme personne. Yeah. Ouais, tu peux aussi les danser doucement, ou si tu en as envie, le faire très rapidement. Yeah.
C'était le Mashed Potatoes de Johnny Hallyday. Du coup, moi, je vais enchaîner sur la situation en Mayotte. Je vais commencer par un article d'Imas Press qui résume un peu qu'est-ce qui nous a amené à ça. Et après, je donnerai des nouvelles de la situation actuelle. Alors que l'opération Wambushu avance difficilement à Mayotte, la colère continue de gronder du côté de la population, aussi bien mahoraise que comorienne. Une situation qui n'a rien d'étonnant, alors que l'archipel est laissé à l'abandon depuis de très nombreuses années, entre tensions communautaires, populations abandonnées par le pouvoir public, institutions qui tombent en lambeaux et conflits diplomatiques, nul ne peut s'étonner des violences qui émaillent le territoire depuis désormais plusieurs années. Chronique annoncée d'un fiasco postcolonial. Pour comprendre la situation, il faut retourner en 1974. À l'époque, tout l'archipel des Comores appartient à la France. La consultation du 22 décembre 1974, qui a lieu dans le territoire des Comores, est organisée pour déterminer si les habitants des îles de l'archipel veulent ou non obtenir l'indépendance de leurs îles. Au moment de la consultation, la question était « Souhaitez-vous que le territoire des Comores devienne indépendant ?» Mais il n'était pas strictement précisé si le résultat devait être interprété île par île ou globalement. Ainsi, si l'on prend le résultat global, au niveau de l'archipel, 95% des votants se déclarent pour l'indépendance. Mais en analysant île par île, 99% des habitants à Moéli, en Juan et en Grande-Comore, votent pour l'indépendance, alors que Mayotte vote à plus de 63% pour le maintien dans la République. Les Mahorais se méfiant du dirigeant pressenti pour diriger les Comores. À l'époque, les partisans de l'indépendance pensaient que la France se conformerait au droit international concernant l'indivisibilité des entités coloniales. Mais à l'arrivée du nouveau gouvernement français, Jacques Chirac décide de dissocier le sort de Mayotte de celui des autres îles. Ahmed Abdallah déclare alors unilatéralement l'indépendance immédiate des Comores qui deviennent indépendantes le 6 juillet 1975. Un second référendum, organisé à Mayotte le 8 février 1976, confirme le choix de la population mahoraise de rester au sein de la République française. La France s'oppose depuis aux prétentions territoriales des Comores sur Mayotte. Plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies suivront jusqu'à 1995 pour condamner la présence française à Mayotte. Depuis, les tensions entre la France et les Comores ne se sont jamais apaisées. Un conflit qui se traduit notamment par le lest du gouvernement comorien en matière d'immigration illégale. Elle-même renforcée par l'instabilité du pays et les coups d'État successifs qui ont impacté toute la population. Mais Mayotte, à l'instar de la plupart des territoires ultramarins, a été largement laissée à l'abandon en matière de développement. La situation y est même bien pire que dans le reste des DROM. Et ce, malgré sa départementalisation en 2009. Au point où le département n'est comptabilisé dans aucune statistique nationale pour ne pas fausser les résultats. La pauvreté extrême, le mal logement, les bangas, le manque d'accès à l'eau, à l'éducation, à la santé, toutes ces problématiques relèvent des compétences de l'État qui semble réaliser à peine que la situation est aujourd'hui intenable. Il préfère aussi se concentrer sur l'immigration illégale qui est certes un problème, mais nie au passage toute autre réalité du territoire. Dans ce contexte, de nombreux Mahorais ressentent de la colère vis-à-vis de la population comorienne. Une colère qui se comprend alors que la délinquance et la violence atteignent des niveaux jamais connus auparavant. Mais cette colère se retranscrit désormais avec des appels au meurtre que l'on peut lire sur les réseaux sociaux ou même entendre sortir de la bouche des élus. En effet, Salim Mdere, vice-président du conseil départemental, a déclaré « Je refuse de les appeler des gamins, les mineurs isolés. Ce sont des délinquants, des terroristes, des voyous. À un moment donné, il faudra peut-être en tuer », a-t-il dit selon ses mots. A-t-il dit en pesant ses propos. Des mots extrêmement violents et répréhensibles, mais qui illustrent parfaitement les tensions sur place. Comment un élu peut-il se permettre de proférer de tels propos s'il ne sait pas qu'une partie de la population est d'accord avec lui ? L'État en retard de plusieurs années. Mais dans le chaos régnant, l'État semble vouloir se laver les mains de sa responsabilité directe sur la situation. Qu'a-t-il fait ces dernières décennies en dehors d'expulser à tour de bras ses parents, parfois des familles entières, en abandonnant les mineurs isolés à leur sort ? Où sont les grands travaux d'infrastructure ? Où est l'eau potable ? Où sont les mesures sociales qui sont les seules réelles réponses à ce genre de situation ? La question reste en suspens, tandis que l'opération Wambushu continue péniblement. Si le gouvernement a pensé à envoyer ses troupes, il ne semble pas avoir pensé à l'aspect juridique ou même diplomatique de l'opération. Est-il bien sérieux de prévoir une opération de telle ampleur sans s'assurer du feu vert de la justice ou même des Comores ? Ce mardi 25 avril 2023, jour où devait avoir lieu initialement l'évacuation de plus de 80 familles, la justice a posé son veto. La veille, le juge a en effet constaté l'existence d'une voie de fait, tenant aux conditions d'expulsion jugées irrégulières par les habitants s'opposant à l'expulsion, mettant en péril la sécurité des habitants. Le juge avance que la démolition des habitations voisines de celles des requérants les fragilisera et ne sera pas sans effet sur leur stabilité et aura un impact certain sur leur sûreté. L'État déploie par ailleurs des moyens considérables pour une opération qui semblait vouée à l'échec avant même son commencement. Dans les faits, Wambushu ressemble plus à un laboratoire à ciel ouvert des nouvelles techniques de répression. La France reste fidèle à elle-même, traitant les Outre-mer avec un esprit colonialiste qui peine à disparaître. Et si certains estiment qu'il faudrait céder Mayotte aux Comores pour régler la situation, on ne peut pas oublier le fait que les Mahorais se sentent profondément français. Un sentiment qui a été validé à plusieurs reprises à travers des référendums. L'autodétermination des peuples reste essentielle et on ne peut retirer aux Mahorais cette liberté de choix. Donc voilà un peu les dernières nouvelles et un peu l'historique de cette petite île. Juste un petit article de contre-attaque. Mayotte, la police tire à balles réelles. À Mayotte, l'État français fait une démonstration. La démonstration qu'il est capable d'expulser des milliers de personnes, de raser des bidonvilles et de mater les récalcitrants à l'autre bout du monde. Pour cela, il déploie toutes ses forces, unités du RAID, gendarmes, drones, blindés et équipage du CRS-8 particulièrement violent. Les autorités appellent cette opération Wambushu, c'est-à-dire reprise en main ou reconquête. Un clin d'œil évident à l'extrême droite. On est sur une opération de reconquête du terrain, expliqué un commandant divisionnaire à l'AFP. Cette démonstration sert à la fois les intérêts impérialistes de la France, garder le contrôle sur un archipel stratégique dans l'océan Indien, et politique en métropole, en montrant la fermeté de Macron à l'égard des immigrés. Le journal Le Monde révélait hier que 650 grenades lacrymogènes, 85 de désencerclement, 60 tirs de lanceurs de balles de défense ont été tirés avant même le début de l'opération par la seule compagnie de CRS-8, dimanche 23 avril. Tout cela pour disperser une centaine d'assaillants, plusieurs munitions par personne. Donc. Près du village de Tsunzu, les policiers ont également utilisé des balles réelles, 12 tirs vers le sol et pour faire fuir. Comme si le recours à l'arme à feu était un moyen de faire fuir, même Le Monde souligne que de tels tirs d'armes de poing sont rarissimes dans un contexte de maintien de l'ordre ou de violence urbaine, même en cas de situation extrêmement dégradée. Ce mardi, en direct sur la télévision publique, le vice-président du conseil départemental de Mayotte qualifie les jeunes immigrés comoriens de terroristes et affirme « il faut peut-être en tuer ». En janvier, Darmanin allait féliciter une unité du RAID à Mayotte, section militarisée de la police, en principe réservée au terrorisme et au banditisme. Ces agents lourdement armés sont intégrés aux opérations d'expulsion en cours. À la télévision, on les voit parader au milieu des gendarmes et des CRS. C'est donc une opération militaro-policière, un mélange qui préfigure la généralisation de ce type de répression. Mayotte, comme les autres territoires colonisés par la France, est un laboratoire. Là-bas, il n'y a presque aucun moyen de vérifier les blessures, l'usage des armes, les exactions de l'État. Ce que la police française ne se permet pas encore en hexagone, contre les manifestations et la population blanche, elle se le permet loin de l'hexagone, sur des corps noirs. Mais cela finira par y arriver. Pour l'instant, peu de gens vont s'émouvoir de tirs à balles réelles face à des assaillants, à Mayotte. Déjà quand le RAID avait été envoyé dans les Antilles réprimer les mobilisations contre le pass sanitaire, qui s'en inquiétait? Aux confins de l'Empire, on habitue les CRS à dégainer, à tirer. Demain, ces pratiques seront intégrées au maintien de l'ordre dans les villes de métropole. En matière de répression, l'exception finit toujours par devenir la norme. Sur ce, on va enchaîner sur un petit peu de musique. We'll be right back. C'était le morceau Spiked de Vilk.
Ok, eh ben, c'était bien cool. Et moi, je vais vous lire. Je cherche ma page. Je vais vous lire. C'est dans le dernier CQFD, donc celui du mois d'avril. Et ils ont une chronique, ça s'appelle High Tech. Là, c'est la numéro 7. Et voilà, c'est une critique. Ça critique à chaque fois les objets technologiques en règle générale. Et donc, celle-là, c'est sur les chiens robots. Et c'est écrit par Émilien Bernard. Mois après mois, Hightech défonce la technologie et ses 20 mirages. Septième épisode dédié au chien robot du géant de la robotique, Boston Dynamics. Toutou dystopique, flippant, qui se rachète une image à coups de défilé de mode et de chorégraphie pop. Le 3 mars dernier, Mazette, c'était la folie à la Fashion Week de Paris, au Palais de Chaillot. Les créateurs de la marque Coperni ont en effet frappé un grand coup pour épauler les mannequins dans leur défilé. Ils se sont payés les services de créatures quadrupèdes jaunes aux pattes noires. Plus précisément, des chiens robots de modèle Spot, défilant comme fleurons de l'entreprise ricaine Boston Dynamics, dansant en rythme et défilant comme des pros. Ils ont, paraît-il, charmé les spectateurs par leur prestance. Clou du spectacle, cette scène où l'un d'eux a délicatement retiré son manteau à la mannequin Rian Von Rompuy avant de lui restituer poliment. Si c'est pas Mimi. Entreprise phare de l'innovation en matière de robotique, Boston Dynamics, créée en 1992, a longtemps galéré en termes d'image. Si les vidéos sont vite devenues virales, elles ne déchaînaient pas vraiment la sympathie jusqu'à des temps récents. Prenez Big Dog, l'ancêtre de Spot, développé en 2005 pour l'armée américaine. Chien géant, aux mouvements saccadés et aux bourdonnements envahissants, il inspirait surtout la crainte. Les vidéos montrant ses améliorations en matière de franchissement d'obstacles ou de courses sur glace suscitaient des flopées de commentaires horrifiés, du genre « Imaginez une armée de ça ». Une crainte logique, surtout si l'on sait que Boston Dynamics a longtemps été financé par le département américain de la défense. Au fil du temps, cependant, l'entreprise a pris un virage pacifiste, notamment depuis que le constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motors s'en est emparé fin 2020. À ce moment-là, elle s'est même publiquement engagée à ne pas armer ses robots. Citation, « Des personnes indignes de confiance pourraient les utiliser pour porter atteinte aux droits civils ou pour menacer, blesser ou intimider d'autres personnes. » Fin de citation, expliquait le communiqué. Le Nobel de la paix n'est pas loin. Ne pas se leurrer pourtant. Si Boston Dynamics prétend avoir rompu avec l'aspect militaire, c'est par pur marketing. En rendant Spot à ses congénères sympathiques, en multipliant les vidéos où leurs différents prototypes de robots secouent leurs popotins dans un hangar sur de vieux standards de type « Do you love me » ou « Start me up », la marque a propulsé la figure du chien robot dans une autre dimension. Cela passe aussi par un nouveau design des droïdes bipèdes et quadrupèdes, plus pop, qui fait penser à l'esthétique épurée d'Apple. C'est ainsi qu'ils deviennent acceptables. Vous refusiez l'idée de chien robot largué dans les rues en suppléant de la police ? Ah, mais attendez ! Ils sont super swag, c'est pas pareil. Pendant ce temps, Spot est en phase de test auprès de diverses forces armées ou de police. L'armée française teste les robots de Boston Dynamics en mode combat, titré ainsi le site spécialisé Clubic en avril 2021. L'entreprise rétorqua qu'elle n'arme pas directement ses robots et qu'ils sont ensuite utilisés pour des opérations de déminage ou d'exploration. Peut-être, mais des concurrents sont sur le rang. À l'image de Ghost Robotics, qui a récemment développé Spur, un cousin de Spot, armé d'un fusil de précision semi-automatique, déjà sur vos écrans. Autre merveille présentée lors de la foire russe aux armements Army 2022, un canidé robotique muni d'un lance-roquette, chien robot de fabrication chinoise, modifié par une start-up locale. Des machines moins élaborées pour l'instant que Spot, mais qui prouvent bien que la position de Boston Dynamics est d'une hypocrisie folle. En faisant progresser à pas de géant les performances des robots et leur autonomie, elle prépare l'inéluctable récupération de son savoir-faire pour des motifs guerriers. Et s'en foutra plein les fouilles au passage. En attendant, les robots de Boston Dynamics dansent sur du Bruno Mars et font des sauts périlleux, suscitant une avalanche de louanges extasiées sur les réseaux sociaux. Le message est passé. Les robots, c'est cool. Et si demain des chiens robots autonomes patrouillent dans les rues de votre ville, avec taser et LBD intégrés, ne vous inquiétez pas, ils twerkent super bien. Voilà, donc c'était la chronique high-tech numéro 7, et je crois que Julien va vous lire après la musique, la high-tech numéro 6 sur les aspirateurs. Voilà, un petit peu de musique.
corner. My own little saboteur. Personal service to make sure I'm nervous. My own little saboteur.
C'était Vex avec le morceau Saboteur.
Alors, comme annoncé, on va se lire maintenant la chronique précédente de CQFD sur les choses i, quoi, les i-trucs. Et voilà, alors je vous lis ça. Envie de déprimer ? File vite sur le site du fabricant de babioles futuristes, iRobot. Tu y découvriras une flopée d'aspirateurs robots aussi hideux que perfectionnés. Le nec du nec. Alors certes, le prix est costaud, le Roomba S9 Plus avec système d'auto-vidage connecté au Wi-Fi coûte la bagatelle de 1499 €, mais en vrai, c'est donné, tant les fonctionnalités sont épatantes. Ce modèle bénéficie ainsi d'une aspiration 40 fois plus puissante que les anciens de la gamme, largement de quoi arracher ta moquette et engloutir ton chat. Surtout, chaque appareil est présenté avec une petite icône certifiant que le bidule apprend et cartographie. C'est bien le minimum pour un balai amélioré. iRobot, c'est un peu le Tesla de l'aspirateur. Un géant de la tech, aux yeux robotiques plus gros que le ventre. Après avoir mis la main sur le cador français du secteur, Robopolis, en 2017, l'entreprise Riken a elle-même été rachetée par Amazon en 2022 pour la bagatelle de 1,7 milliard de dollars. Quant à son produit phare, ce si abordable Roomba, il s'est récemment fait épingler pour une histoire de confidentialité édifiante. que je t'explique. Pour apprendre et cartographier, ces taupes roulantes sont dotées d'une caméra. Logique. Conséquence, ils filment, aspirent toutes les données à leur portée. Disposition des meubles, autres appareils ménagers, présence de Médor. Et ça, c'est de l'or. Une mine de données. Pour exploiter ce filon, iRobot s'est tourné vers une société dénommée Scale AI, laquelle sous-traite la part encore, entre guillemets, humaine, entre parenthèses, humaine du boulot. Laquelle sous-traite la part, encore, entre parenthèses, humaine du boulot, à des employés sous-payés au Venezuela. Peu ravis de leur job, quelques-uns de ces employés ont fait circuler sur le web certaines images ainsi pillées. Résultat, une utilisatrice a découvert que circulait sur Facebook une photo d'elle assise sur ses toilettes, l'auteur du cliché, son aspirateur. Roomba les masques. Les aspirateurs connectés ont d'abord vocation à engloutir le maximum de données de leurs utilisateurs. L'affaire n'a rien d'anecdotique, à tel point que le magazine du très sérieux MIT a consacré une longue enquête à Roomba, A Recorded Woman on the Toilet, How Did Screenshot End Up on Facebook? Comment les photos d'une femme sur les toilettes ont atterri sur Facebook, grâce à Roomba. On ne va pas entrer dans les détails, tant le tableau tracé est tentaculaire. Mais une chose est sûre, comme les monstres connectés, les enceintes type Alexa ou les volants roulants connectés, oui ça existe, les aspirateurs connectés ont d'abord vocation à engloutir le maximum de données de leurs utilisateurs. Je pense que c'était volet roulant, mais il y a vraiment une faute de frappe. Dans le monde automatisé qu'il prolonge, chaque détail compte, s'agrège à d'autres, affine la surveillance totale à des fins mercantiles. C'est à cette aune qu'il faut lire l'achat de l'entreprise par Amazon en 2022. Une annexion brutale de l'immense base de données accumulée par les aspirobots. Cité dans un article de Heidi News, le boss d'une entreprise de cybersécurité genevoise pose les choses ainsi. La valeur de ce rachat ne réside pas dans la technologie développée par iRobot, mais ce qui compte, ce sont les données qu'iRobot a accumulées ces dernières années, et c'est sur ce capital qu'Amazon met la main. Il y a quelques années, cette association de malfaiteurs faisait encore office d'horizon à proscrire. Parfaite illustration, un article du Monde dont l'auteur s'interrogeait en 2017. En possession de telles données, quel profit pourraient en tirer des entreprises telles que Google ou Amazon? Vous proposer un canapé, s'il apparaît que vous n'en avez pas? Vous assaillir d'annonces pour des jouets, s'il détecte la présence d'un enfant? Bonne question, en partie éclaircie depuis, en mode gambadon vers le pire. Versant dystopie flippante. Il y avait la zone du dehors signée Damasio, il y a désormais l'Amazon du dedans signée Jeff Bezos. Un monde où la fréquence de tes passages aux toilettes se monnaie. Quant à l'utilisatrice de Roomba dont la photo sur la lunette DVC a fuité sur la toile, on lui proposerait bien une annonce commerciale personnalisée. Le top 5 des meilleurs marteaux pour écrabouiller ses horaires. Voilà, c'est signé Emilien Bernard et c'était dans le CQFD du mois de mars.
Oh!
C'était Short Day avec le morceau Pig in Blue qui passera en concert au Temps des Cerises le 26 mai. On espère vous voir nombreuses et nombreux. Je vais vous lire un petit article de France 24. Présidentielle turque, plus d'une centaine d'arrestations pour terrorisme avant l'élection. Avocat, journaliste, dirigeant d'ONG et un politicien, au moins 110 personnes ont été arrêtées mardi en Turquie dans le cadre d'une opération antiterroriste visant le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, à 3 semaines des élections présidentielles et législatives. Au moins 110 personnes ont été arrêtées mardi 25 avril en Turquie dans le cadre d'une opération antiterroriste visant le Parti des travailleurs du Kurdistan. L'opération survient à 3 semaines d'élections cruciales pour la Turquie. Les arrestations ont été menées dans 21 provinces du pays, dont celle de Diyarbakir, au sud-est à majorité kurde, a rapporté une source policière à l'AFP. Selon l'association du barreau de Diyarbakir, interrogé par l'AFP, le nombre total d'interpellations pourrait atteindre 150, dont au moins une vingtaine d'avocats, 5 journalistes, 3 acteurs de théâtre et un politicien, a-t-elle détaillé. Les avocats sont interdits de tout contact avec leurs clients pendant 24 heures, a précisé l'association. Les domiciles de nombreuses personnes, dont des journalistes, des avocats et des dirigeants d'ONG, ont été perquisitionnés aux premières heures de la matinée, affirme pour sa part l'ONG de défense des libertés MLSA, Media and Law Studies Association. À la question kurde dans les élections présidentielles et législatives se tiennent dimanche 14 mai en Turquie et seront décisives pour le maintien ou non du président Recep Tayyip Erdogan et de son parti AKP au pouvoir depuis 2 décennies. L'opposition présente un front uni de 6 partis qui a désigné Kemal Kılıçdaroğlu comme un candidat de l'alliance de l'opposition pour la présidentielle turque, soutenu par le parti pro-kurde HDP. Engagé dans la lutte armée depuis 1984, le PKK est l'ennemi juré de la Turquie et notamment du président Recep Tayyip Erdogan, qui le considère comme un mouvement terroriste, à l'instar de l'Union européenne. Récemment, Kemal Kılıçdaroğlu a accusé le président Erdogan d'associer les Kurdes au terrorisme et de stigmatiser cette communauté à l'approche des élections présidentielles et législatives du 14 mai.
On sort en trombe, en nombre, on se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoul ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des youyous stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans treillis pour ce pays. L'affiche est couleur sang, et Manouchian vient pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde, il a fécondé ta grand-mère, on investit brognard, le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux armes miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout, même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans élimés par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus 20 ans, mais on en aura jamais 60, car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes. Donc nous, on pend Peter Pan, on va redevenir adultes. On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage, et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent. À leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné, ça va de soi. Angela qui fait une choix pendant que ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica, pharmacodépendant des OGM pour nous doper. J'ai recraché la skate, monté le cheval et galopé. Braqué un RER, diligence, la pache de Belleville. Viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire signer. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en éruption soudaine.
Et on vient de s'écouter Gaël Faye, le morceau Irruption.
Alors moi, j'ai voulu lire là un petit article d'un blog qui s'appelle Pavillon Rouge et Noir et qui parle d'informatique et donc là, qui nous révèle la vérité sur la blockchain. C'est le titre de l'article. Depuis quelques années, la technologie de la blockchain est sujet à un tel buzz qu'elle est mise à toutes les sauces. Les projets utilisant cette technologie se multiplient sans que le choix de l'utiliser ne semble être justifié par la nature des projets en question. La raison à cela semble être le fruit d'un pur effet de mode, lui-même assez directement lié à l'idéologie aveuglée du solutionnisme technologique et des possibilités de financement qui en découlent. En règle générale, le principe de ces projets est d'enregistrer des informations dans une blockchain en prétendant que cette technologie apporte une certaine forme de garantie. On voit par exemple régulièrement passer des projets qui consistent à mettre dans une blockchain des informations de traçabilité, des actes notariés ou encore des diplômes en promettant que par ce biais, des garanties de sécurité et de validité de ces informations tout en permettant une désintermédiation. Il faut comprendre que l'intérêt d'une blockchain est de permettre l'établissement d'un consensus distribué, c'est-à-dire permettre à un ensemble de systèmes autonomes de se mettre d'accord sur une donnée commune, sans avoir besoin d'une autorité centrale et dans un contexte conflictuel. Personne ne fait confiance à qui que ce soit. Quand on n'a pas ce besoin spécifique, l'utilisation d'une blockchain n'a aucun intérêt. Cet éclaircissement fait, il est évident que bon nombre des projets autour desquels les blockchains n'ont aucun sens. Déjà, tous ceux qui consistent à avoir une blockchain gérée par une autorité particulière ou qui implémentent une forme de contrôle d'accès. Mais aussi, tous ceux qui prétendent pouvoir rendre obsolète le recours à une autorité pourtant intrinsèquement nécessaire. Prenons l'exemple des diplômes. Un diplôme universitaire est nécessairement délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité à le faire par un État ou une autre institution, peu importe. Vouloir mettre des certifications de diplôme dans une blockchain n'a donc aucun sens car seul l'établissement qui a délivré le diplôme est réellement en mesure de certifier son authenticité. On a donc affaire à une autorité centrale indispensable à la certification du diplôme, quelle que soit la façon dont celui-ci existe sur papier ou numériquement. Il n'y a donc pas besoin de blockchain et c'est même contre-productif d'en utiliser une. Si certifier numériquement des diplômes est utile, alors c'est faisable de manière plus efficace et moins coûteuse sans blockchain. Et on sait très bien faire ce genre de choses, c'est comme ça que fonctionnent les certificats TLS utilisés pour les connexions sécurisées en HTTPS sur le web par exemple. Mais le souci avec ces projets autour de blockchain, c'est en fait bien plus profond que ça. Ce que beaucoup de monde semble ne pas comprendre ou ne pas vouloir comprendre, c'est qu'en règle générale, ce qui est écrit sur une blockchain n'a aucune valeur de vérité dans un monde réel, si ce n'est pas appliqué, imposé par une autorité tierce. Exactement de la même manière que le contenu d'un contrat écrit sur du papier n'a de valeur que tant que l'ensemble des parties reste d'accord avec ou qu'il existe une autorité tierce qui a la capacité de contraindre les parties récalcitrantes à honorer le contrat. La seule vérité qui est garantie par l'écriture d'une information sur une blockchain, c'est que l'information en question est écrite sur la blockchain en question. Ça n'a donc d'intérêt que si c'est l'écriture elle-même qui définit la vérité, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une écriture performative. C'est le cas avec les crypto-monnaies, où le montant est contenu dans un portefeuille et calculé à partir des transactions écrites sur la blockchain, c'est-à-dire où la vérité, une vérité très, très locale qui n'a de sens que dans la dite blockchain, est définie par l'écriture. Il ne faut pas confondre ce qu'on écrit parce qu'on a décidé par ailleurs que c'est vrai. Il ne faut pas confondre ce qu'on écrit parce qu'on a décidé par ailleurs que c'est vrai, que ce qui est vrai parce que c'est écrit. En dehors des crypto-monnaies, donc, je n'ai jusqu'à présent vu aucun autre exemple d'utilisation justifiée de blockchain. Et pour cause, on vient de démontrer que dès que ce qui est écrit dans une blockchain concerne une chose qui est extérieure à cette blockchain, alors l'utilisation d'une blockchain n'apporte strictement aucune garantie de plus que l'écriture, par exemple, sur un morceau de papier quelconque. Et donc que la blockchain ne peut être un remplacement que du papier et du papier seulement, en moins pratique, moins efficace, plus coûteux, plus polluant, moins respectueux de la vie privée, etc. Et donc que toutes ces institutions et autorités qui existent autour pour donner un sens à une valeur audit papier, et que ce soit un acte notarié, titre de propriété, un diplôme, etc., sont toujours nécessaires. En utilisant une blockchain, on paye le coût de la décentralisation et de l'absence de confiance, mais sans rien décentraliser du tout et sans éliminer aucun besoin de confiance. Voilà, donc la blockchain, ça sert vraiment à rien. Et les crypto-monnaies, ça se pète la gueule. Et ben voilà, on peut s'écouter un petit peu de musique.
C'était le morceau Dry Heat de Smish Pish. Je vais vous lire un petit texte, pas un petit texte, un gros texte de lundi matin qui s'appelle « Oubliez Macron ». Il faut commencer par faire l'éloge d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un militant du capital, franc et loyal. Il est franc et loyal, bien sûr, pas avec ceux qu'il juge comme un peuple d'imbéciles, surtout ceux qui ont voté pour lui, mais avec ceux pour qui il combat. Pour les nommer, on peut tourner autour du pot, parler d'actionnaires, etc., mais nous préférons dire, à l'ancienne, il combat pour la classe des capitalistes. Il en est le serviteur fidèle, il ne le s'est jamais présenté autrement. Notre problème n'est donc pas d'en finir avec un individu à l'intelligence limitée, aux compétences étroites, mais bien avec la position même qu'il incarne, et c'est beaucoup plus difficile. Car il faut bien réaliser que ce que fait le gouvernement français n'est que l'avant-garde européenne de ce qui doit s'accomplir partout ailleurs pour que la classe des capitalistes garde son contrôle sur la population mondiale. au moment même où cette classe devrait être très logiquement renoncer à son pouvoir et céder la place. Que les individus qui composent cette classe et les cadres qui les soutiennent à différentes échelles composent cette... préfèrent littéralement sacrifier le monde pour conserver leur place. C'est bien ce qui fait d'eux des criminels délirants. Notre problème n'est pas de les convaincre à changer de voie, notre problème est de sortir de l'espace même qu'ils ont façonné et d'en construire un autre. Pour aborder cette question, il nous a paru utile de partir d'une annonce faite par Darmanin qui a pu passer inaperçue pour beaucoup, recouverte notamment par les bruyantes menaces qui visaient aussi bien les soulèvements de la Terre que la Ligue des droits de l'homme, la dissolution de la défense collective de Rennes. Pourquoi cibler la défense collective de Rennes ? Il faut d'abord dire que ce n'est pas seulement l'organisation en tant que telle qui est visée, qui est connue à Rennes notamment pour le suivi juridique des militants lors de leur procès, la résistance aux charges policières et interpellations destinées à mettre fin aux actions militantes de rue. Ce qui est visé, c'est l'émergence d'un espace politique qui se montre conséquent avec un simple fait, qu'une grande partie de la population ne peut dorénavant esquiver et qu'elle se contente pour le moment de déplorer. Ce fait est le suivant. Un tel pouvoir ne reculera pas sous l'effet d'une interpellation à reculer, se limitant au registre de l'action légale, aussi massivement exercée et soutenue soit-elle. Il ne peut plus s'agir de contester la légitimité d'une mesure particulière tout en reconnaissant implicitement, serait-ce à son corps défendant, par ses formes d'action, la légitimité, même minimale, du pouvoir qui la met en œuvre. Ce pouvoir ne peut plus être interpellé, il doit être affronté, et affronté en tant que tel, parce qu'il a perdu toute légitimité, un tel savoir commence à se répandre, et pour le pouvoir, il est vital d'attaquer préventivement l'espace politique qui se construit sur ses prémices, espace qui est encore essentiellement un potentiel, en ciblant des groupes pour lesquels cette absence de légitimité n'est pas une découverte récente, des groupes qui cherchent à faire émerger cet espace politique et à en organiser la défense collective. La question reste ouverte de la validité tactique des pratiques illégales en situation, qu'il s'agisse d'affrontements avec la police, d'occupation, de blocage, de sabotage et autres destructions. Certains peuvent juger que la multiplication de ces actes est en elle-même une victoire, mais pour le pouvoir, le vrai scandale n'est pas tant l'acte illégal lui-même, aussi spectaculaire soit-il. De tels actes sont régulièrement le fait de corporations défendant leurs intérêts économiques spécifiques et globalement tolérés. Le scandale réside plutôt dans la logique même de l'affrontement avec le pouvoir du capital, dans la volonté politique d'employer la force et de se donner des objectifs politiques, des propositions tactiques à même de le faire céder par tous les moyens nécessaires, légaux et illégaux, et de le faire céder avec la visée stratégique de le faire disparaître. Le mouvement syndical se trouve confronté à une décision qui invalide définitivement l'hypothèse sur laquelle on fait fond les dirigeants syndicaux depuis le compromis fordiste. Il ne semble plus désormais de s'envisager comme un partenaire social. C'est l'espace même sur lequel reposait la légitimité des syndicats, aussi bien que des partis de gauche que l'ennemi a nié, l'espace de la démocratie institutionnelle. Si la Constitution permet qu'une loi refusée par les trois quarts des gens soit validée, alors la Constitution elle-même est pourrie, pour ne rien dire des mêmes membres de son conseil. Les syndicats vont donc être confrontés à une vraie difficulté. Faut-il entretenir encore, dans une certaine mesure, l'invocation de recours institutionnels qui tombent les uns après les autres, voire même venir au secours du pouvoir en reconnaissant la légitimité en miettes pour conserver leur rôle de représentants et de protecteurs institutionnels de la force de travail ou au contraire assumer la nécessité du recours à la force. Un double danger les guette, celui d'être à long terme déserté si leur impuissance est patente par excès de déférence pour des institutions discréditées, ou celui d'être violemment attaqué par le pouvoir s'ils prennent congé avec conséquence ces impasses institutionnelles. Finalement, la question pourrait être celle-ci. Certains syndicats sont-ils prêts à s'envisager comme partie prenante d'un espace politique d'affrontement avec le pouvoir, ou encore à surmonter les fausses dichotomies entre lutte économique et lutte politique en assumant le caractère unitaire de la question démocratique, à reconnaître que la crise de régime ne peut être surmontée par un retour à la table des négociations après la défaite, mais par la capacité du mouvement à imposer enfin ses vues à l'ennemi. Une telle évolution impliquerait un renversement de perspective, ne plus être le partenaire social qui freine, modère ou accompagne une dynamique historique néolibérale légitimée institutionnellement, mais devenir partie prenante d'une dynamique politique de rupture avec le développement capitaliste, posant à moyen terme une situation de double pouvoir et finalement posant la question du pouvoir tout court. Autrement dit, du point de vue du mouvement lui-même, il reviendrait à toutes ses composantes de construire avec les syndicats l'articulation entre la lutte à la base, dans les entreprises et dans la rue, et ses représentants, L'articulation qui est déjà une esquisse d'alternative politique, d'alternative de pouvoir, ce qui impliquerait un dépassement construit de l'opposition entre syndicalisme et autonomie, direction verticale de l'activité légaliste des masses, et action directe illégaliste et minoritaire par l'action directe de masses qui s'auto-organisent et s'auto-représentent en faisant de chacun de ces délégués contrôlés et révocables des instruments de leur propre pouvoir. Le gouvernement français, disions-nous, n'est que l'avant-garde sage et raisonnée de ce que veut la classe des capitalistes et de ce qu'elle est obligée de faire, briser toute contestation. Pour cela, il faut notamment finir de démanteler ce qui avait pourtant été son outil en d'autres temps, la constitution d'une classe moyenne maintenant vouée à disparaître. Le gouvernement français a ouvertement choisi l'alliance objective avec les fascistes. Que le Rassemblement national fasse mine d'aller à l'encontre de cette loi ne trompe personne, à part ceux dont le cerveau aurait été définitivement embrumé par la fréquentation des sites d'extrême droite. Cette alliance objective est une constante historique qui se vérifie tout au long du siècle passé avec le choix du fascisme par les patrons en Italie, celui des nazis en Allemagne, mais aussi avec cette figure emblématique du dogme néolibéral qu'est Hayek, rendant visite à Pinochet. Il est intéressant de constater que le RN, créé par d'anciens partisans du régime fasciste et contre-révolutionnaire dit de Vichy, donc par des militants assez peu démocrates et républicains, apparaissent aujourd'hui, du point de vue du pouvoir macroniste, comme beaucoup plus républicains que la très modérée alliance de gauche NUPES, contre laquelle un front républicain, justement, devrait être établi d'urgence, selon certains, pour éviter le chaos. Mais il ne s'agit pas seulement de la mauvaise foi politique. Ouh, je viens de voir l'heure, je crois qu'on va lancer, la fin. Vous pouvez retrouver cet article sur lundi matin.
Eh ben, nous, on se retrouve dans 2 semaines, à 18h, toujours sur Radio Primitive. Et si vous voulez nous écrire, je vous redonne notre adresse mail. Donc c'est la-pouli@riseup.net, R-I-S-E-U-P.net, voilà. Donc on vous remet les liens des textes qu'on a lus ce soir et le titre des chansons diffusées sur la page de la police du site internet de la Radio Primitive, ainsi que sur notre audioblog que vous pouvez retrouver en tapant Pouli dans la barre de recherche du site Arte Audioblog. Si vous voulez aller jeter une oreille sur d'anciennes émissions, ça marche aussi. Voilà, donc
allez.
Prenez soin de vous et ne lâchez rien, à dans 15 jours.
À dans 15 jours.
À dans 15 jours.
Salut.